Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
L'Immaculée Conception. Pourquoi la congrégation de l'Immaculée Conception ?
Bon, ça peut surprendre parce qu'au niveau Église, il n'y avait pas encore le dogme. Bon.
Là, nous étions en quelle année ? Vous pouvez le préciser ?
1836, la fondation.
Et le dogme, c'est
en 1854. Et pour Émilie, elle avait une grande dévotion à la Vierge et ne pouvait être que immaculée. Mais je pense aussi que l'expression commençait à courir au niveau du peuple de Dieu qui s'adressait à la Mère de Dieu, qui ne pouvait être que immaculée. Parce que le dogme ne fait que confirmer ce qui est déjà en place. Et elle a donc choisi cette appellation Immaculée Conception.
Un évangile grand ouvert, toute sa vie en est la preuve. Pour nous, elle est une lumière, sœur Émilie de Villeneuve.
Le 8 décembre 1836, Émilie Jeanne de Villeneuve fondait à Castres dans le Tarn la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Sa vocation ? Accueillir des jeunes filles fragilisées par la misère, s'occuper des prisonniers, mais également de l'éducation des enfants et porter des soins aux malades. Missionnaires et apostoliques, celles qui aujourd'hui sont connues sous le nom familier de Sœurs Bleues fondent très rapidement des communautés en Afrique et en Amérique du Sud. Présente aujourd'hui dans plus de 20 pays et fidèle à l'esprit d'Émilie, Sainte Émilie, canonisée en 2015, elles n'ont de cesse de servir Dieu, tant les pauvres, les exclus et les laissés pour compte de la société. En cette semaine du 8 décembre, nous les avons rencontrées chez elles, à Castres, à la Maison Mère. Nous sommes avec Sœur Michèle Cancalon, responsable de la province Europe.
Alors, elle a fondé à Castres, mais pas directement ici. La première maison des sœurs, en fait, nous étions locataires rue Tolosane, derrière la platée. C'est ce qui explique que Mère Émilie a prononcé ses vœux à la platée. Et elles avaient loué deux appartements. Les sœurs en occupaient un et dans l'autre, elles avaient regroupé des jeunes filles de la ville qui venaient pour apprendre les broderies, puisqu'à l'époque, c'était le travail des dames. Mais très vite, ça s'est avéré trop petit. Dans un premier temps, elles ont loué un bâtiment chez les sœurs de la Présentation. Et ensuite, elle a cherché ici cette colline. Et quand elle a vu que sur la colline, il y avait une possibilité d'avoir des puits, elle a dit, c'est là qu'on va construire. Parce qu'il y avait l'eau sur place. Et c'est ce qui explique que nous sommes ici sur ce qu'on appelait à l'époque la colline du Crabier.
Crabier, ça veut dire c'est quoi c'est
les... Je crois que c'est les chèvres.
Les chèvres, oui.
Oui, oui. Je ne suis pas du coin, mais je pense que c'est ça.
Aller où les pauvres nous appellent. Je crois que c'était la mission, le cœur de la mission que s'était donnée Jeanne-Émilie de Villeneuve à elle et puis à la congrégation.
Et à la congrégation,
des Sœurs Bleues donc, qu'elle a fondée. Et je me disais que ce cœur de mission, presque 2 siècles et demi après, rejoignait en tout point le message aujourd'hui du pape François.
Tout à fait. Le souci d'Émilie, c'était de vraiment répondre à l'appel des pauvres. Et elle-même, déjà jeune fille, sur Haute-Rive, elle s'occupait des jeunes filles qui restaient toute la journée là parce que les parents partaient travailler au champ ou à l'usine. C'est le début de l'industrialisation, avec pour conséquence que les parents partent en ville travailler, laissent les enfants et sont laissés à l'abandon. Et cette détresse l'a toujours touchée et on a repris ce qu'elle nous avait dit, allez où la voix des pauvres vous appelle. À ce point que pour elle, nous pouvions faire n'importe quelle action du moment qu'on répondait à cet appel des pauvres. Nous n'étions pas spécifiquement enseignantes ou infirmières. Nous sommes faites pour répondre aux nécessités du moment. Et aujourd'hui, la congrégation répond très fort dans ce sens-là, puisque, pour exemple, nous n'étions pas à Haïti, mais après le cataclysme, nous avions envoyé 3 sœurs pour travailler sur place, et elles y sont toujours. De même, il y a une dizaine d'années, aux Philippines, il y avait eu des cyclones terribles, et on s'était dit, c'est une zone où nous ne sommes pas et où il y a beaucoup de misère. Et là, nos sœurs du Brésil ont envoyé des sœurs travailler aux Philippines, et elles y sont toujours.
Un des charismes vraiment de la congrégation, c'est vraiment la mission, c'est vraiment partir, aller fonder des communautés un petit peu partout dans le monde, au service des pauvres, pour évangéliser aussi.
Oui, parce que le premier souci aussi d'Émilie, c'était bien aller là où la voix des pauvres, mais c'était la pauvreté aussi dans tous les sens. Pauvreté morale, pauvreté d'une méconnaissance de Dieu. Et pour être sûr que les sœurs ne s'épuiseraient pas dans le travail quotidien, il fallait que dans notre vie nous sommes réglés de telle manière que nous avons d'abord un temps avec le Seigneur. Et nous partons ensuite auprès de ceux qui ont besoin de nous. Puis le soir, nous revenons auprès du Seigneur, lui présenter ce que nous avons vécu. Nous vivons cela comme action, prière, sans arrêt. On ne va pas se lever le matin en disant « vite, il faut que j'aille servir telle personne ». Non, je prends d'abord le temps devant le Seigneur pour présenter cette personne que je vais rencontrer. Et je reprendais l'image d'un évêque, bon, avoir l'oreille pour écouter ce que Dieu me dit, mais aussi avoir l'oreille pour écouter ce que le pauvre me dit. Nous sommes là à une croisée de chemin pour présenter l'un à l'autre.
Elles sont aujourd'hui moins de 10 dans cette communauté de Castres qui a pu en compter jusqu'à 30. C'était au siècle dernier, lorsque la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception assurait entièrement la charge et la responsabilité de l'école, de la maternelle à la terminale. Aujourd'hui, après la fusion avec l'institution de la présentation, le couvent bleu, devenu en 2002 l'ensemble scolaire Notre-Dame sous la direction d'un chef d'établissement laïque, n'accueille plus que des élèves de lycée et de BTS. Par ailleurs, depuis quelques années, elles abritent également dans leurs locaux une maison de retraite, un EHPAD où sont accueillis sans distinction laïcs et religieuses âgées. Quant à elles, la petite communauté, regroupée au cœur du couvent, passerelle entre les deux extrémités de la vie, maison de retraite et lycée, en phase avec les exigences de leur temps, elle perpétue en acte la mémoire d'Émilie de Villeneuve.
Nous accompagnons dans la mesure où nous le pouvons, mais ça a vraiment été le souci pour que l'œuvre continue de chercher des personnes compétentes pour s'en occuper. Parce qu'on ne voulait pas que, bon, il n'y a plus de sœurs, c'est fini. Non, il n'y a plus de sœurs, mais l'œuvre continue et dans notre spiritualité, c'est-à-dire que nous conscientisons les laïcs à ce que nous vivons et ce que nous voudrions qu'il reste en place. Voilà ce qu'était la salle d'études.
Et qui est devenue, donc là c'est
la
pour
grande salle, pour la maison de retraite.
Voilà.
Puis au fond, il y a le grand restaurant, on a ajouté une aile.
Ah, bonjour. Ah oui, mais c'est vraiment contigu, alors c'est vraiment, c'est vraiment dans l'enceinte.
Ah oui,
de...
oui. Oui. C'est. C'est bien qu'ils viennent chez nous comme ils veulent, il n'y a pas de...
Ah oui, il y a vraiment le lien qui peut se faire très facilement.
Alors c'est sûr, il a fallu qu'on abatte les bâtiments. Vous vous rappelez, il y avait des bâtiments le long de la rue. Il y avait les cours de dessin qui s'y donnaient.
Oui.
Bon, tout ça a été rasé pour agrandir la maison de retraite.
Bonjour.
Nous, on est juste au milieu. On a gardé vraiment la partie centrale du temps d'Émilie.
Et vous êtes
Bon, nous sommes 8, mais nous avons une capacité d'accueil de 42 personnes, parce que nous avons les rencontres qui se font ici.
Et entre les jeunes du lycée et la maison avec les
palettes. Ils ont des activités.
Il y a des activités.
Ils y vont,
communes, oui.
Ça se met en place. Les petits du primaire viennent faire des animations. Je vais vous montrer la chapelle. Alors, les résidents qui le veulent peuvent venir à la messe.
La messe est célébrée
tous les jours.
Tous les jours. Alors, on va aller au jardin dans lequel se trouve donc la tombe d'Émilie.
Oui, au fond du jardin. Elle est accessible par tout le monde. Nous avons des... Ah, bonjour, monsieur Guibert.
Bonjour, Michel.
Nous avons des personnes qui viennent directement à la tombe, qui ne viennent pas nous voir.
Ah,
quoi.
Oui.
Et c'est bon, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'elle soit accessible.
Bon, vous avez un lien toujours avec la ville, avec les gens de la ville ici?
Oui, oui, oui. Oui.
C'est, c'est un espace ouvert.
Oui, alors là, oui.
Ah, oui.
Bon, puis c'est-à-dire, ça vient aussi de la communauté, comment nous recevons les gens. Mmh. Comme on dit en Afrique, si je reçois avec la figure attachée, mais personne ne va revenir. Non, nous essayons de répondre aux demandes qui nous sont faites. Nous accueillons beaucoup de groupes qui viennent pour se retrouver, des rassemblements ou autres. Le directeur du lycée est très favorable et quand il y a besoin, il dit si, allez-y, prenez la classe, la maison est ouverte. Même côté communauté, où nous n'avons plus tellement de place, l'espace libre, il est souvent très occupé par des formations, des rencontres. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Non, pour ça, ici, c'est une chose que j'apprécie en France, c'est de voir le souci qu'avaient les sœurs, voyant qu'elles ne pouvaient plus faire face à l'œuvre, de confier l'œuvre à des gens capables de l'assumer jusqu'au bout, plutôt que de rester attaché à son petit... C'est la vie qui continue.
Oui. C'est l'intelligence du cœur et d'esprit.
Voilà.
Et une grande générosité pour pouvoir passer la main.
Oui, c'est pas évident toujours, parce que ceux qui viennent, même si on les trouve très bien, ils pensent pas tout à fait comme nous, ils n'agissent pas tout à fait comme nous. Mais l'essentiel, c'est que l'œuvre se fasse. Et bien. Il y a toujours le parc. Il est un peu plus construit qu'il y a 30 ans.
Il est moins arboré. Il était beaucoup plus arboré.
Voilà. Hein. Mais il est toujours très apprécié.
Et là-bas, c'est toujours le gymnase.
Oui. Au-dessus, il y avait une prairie où on a construit l'internat. Par contre, les voitures sont très envahissantes. Voilà donc la tombe qui a été refaite. En fait, on n'a pas touché le corps de la tombe. Hein. Nous avons refait que le dessus. Parce que c'était un marbre blanc venu d'Italie, mais qui était tout taché avec des champignons qu'on ne pouvait pas récupérer. Alors on a dit, on est... au pays de la pierre, on va prendre une pierre du pays.
Donc c'est du granit. Hein,
c'est du granit.
Voilà, c'est le granit du Cidobre.
Et vous voyez, on a donc organisé des banquettes des deux côtés. Le soleil y donne. L'été, il y a de l'ombre, donc chacun peut y trouver son compte.
Et donc derrière la tombe, il y a la statue de la Vierge Marie.
Alors, derrière la tombe, on a tenu à remettre une statue de la Vierge parce que du temps d'Émilie, Émilie avait fait ériger comme une grotte avec la Vierge dedans. Et les sœurs venaient tous les jours pour une prière à Marie. Et alors, on a donc voulu garder la Vierge, mais cette fois-ci, on a ouvert la grotte sur le monde. Et on a fait la planisphère en indiquant où sont les filles d'Émilie.
Qui sont parties vraiment sur tous les continents.
Sur tous les continents.
Et le bon Dieu nous conduit, il saura tout diriger au mieux.
C'est Émilie de Villeneuve.
C'est Émilie de Villeneuve, oui.
Et c'est une plaque que l'on peut lire, là.
Qu'on peut lire, oui. Mais il faut savoir que, déjà, du temps d'Émilie, elle était ouverte au monde. Bon, son père, officier de marine, lui avait raconté sûrement beaucoup de choses. Et du temps d'Émilie, il y avait eu des propositions pour partir déjà à Haïti, au Liban et dans d'autres pays. Et nous avions, du moins Émilie avait dû refuser, parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers. Sinon déjà, de son vivant, il y aurait eu beaucoup plus d'implantations. Et si nous sommes partis sur le Sénégal et le Gabon, c'est parce qu'à travers les pères spiritains qui avaient fait appel à nos services, nos sœurs recevaient un peu d'argent du ministère de l'économie, qui s'occupait des territoires outre-mer. Et alors, pour leur présence, elles recevaient un peu d'argent pour vivre. Et le voyage était beaucoup moins cher, où il était gratuit. Parce que c'était toute une aventure, hein, de passer un mois presque deux sur un bateau et pas des cabines personnelles. Mais l'argent, au début, a freiné beaucoup de choses. Mais elle avait l'esprit ouvert.
Née à Toulouse, le 9 mars 1811, troisième fille du marquis Louis de Villeneuve et de Rosalie d'Avensen, grandit au château d'Hauterive, dans le Tarn, où son père, grand propriétaire terrien, emploie un grand nombre de personnes dans sa nouvelle industrie du traitement du cuir. De ses parents, Émilie reçoit des valeurs fortes. Mais l'épreuve marque prématurément et profondément sa vie. La maladie et la mort de sa mère alors qu'elle n'a que 14 ans. 3 ans plus tard, ce sera celle de sa sœur Octavie, sa sœur cadette. Son père, ancien marin, manifeste un solide sens social. Il crée un cours d'apprentissage pour les jeunes gens, une société de secours mutuel. Émilie devient la maîtresse de maison du château d'Hauterive et prend l'habitude de confier à la Vierge ses joies, ses peines, ses choix à faire. Son unique passion, c'est son amour pour Dieu et pour les plus pauvres, pour les malades, les prisonniers, les prostituées. Pour elle, les aumônes ne suffisent pas, la charité non plus. Elle veut être en relation avec eux d'égal à égal, leur rendre leur dignité d'êtres humains à l'exemple de Jésus Sauveur. Et c'est tout cela que raconte la Chambre des Souvenirs, où nous conduit à présent Sœur Michel.
On va aller à la Chambre des Souvenirs, où nous avons rassemblé tout ce qui avait appartenu à Émilie.
Donc il faut prendre l'ascenseur.
Oui, parce que j'ai un problème de genou.
Et c'est dans cette chambre qu'elle est décédée?
C'est là qu'elle est décédée, oui. Pour ça qu'on s'est dit, plutôt que d'avoir en bas une chambre souvenir comme ça, on va faire une chambre souvenir là où elle est décédée. Cette partie de l'infirmerie correspondait avec la chapelle. Ici, il y avait une fenêtre qui donnait sur la chapelle, si bien que les sœurs malades pouvaient suivre la messe. D'accord. Il n'y avait pas de système de sonorisation comme aujourd'hui, mais on trouvait des solutions. Nous avons recréé le lit comme il était à l'époque. Voilà, par contre, le bureau, c'était vraiment son bureau et sa chaise.
Vous avez remis des plumes d'oie.
De l'époque, oui. Voilà, on a essayé vraiment de reconstituer la statue de Notre-Dame des Victoires. Elle avait une grande dévotion à Notre-Dame des Victoires.
Et elle est décédée du choléra, je crois, c'est ça?
Oui, 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 la dernière décédée du choléra dans la ville de Castres. Et pour nous, nous pensons qu'elle a donné sa vie. Parce que quelque temps auparavant, elle était partie avec une novice, une postulante, une novice, une sœur professe, à Pibrac, prier Sainte-Germaine pour que la maladie s'arrête. Et à son retour, c'est elle qui l'a attrapée et qui est morte. Et ça a été le dernier décès dans la ville.
Vous le pensez, mais vous n'en êtes pas sûr?
On le pense sûr, parce qu'il y a des choses qui se transmettent oralement. Bon, il n'y a pas une preuve écrite. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est allée à Pibrac Alors pour nous, on s'est dit qu'elle a donné sa vie pour la ville de Castres. Bon, alors ici, nous avons exposé cette aube brodée à la main qui avait été faite par Émilie. Pour Émilie, il ne fallait pas perdre du temps. Si nous n'avions rien à faire, entre guillemets, vous preniez une aiguille et vous travailliez.
Et c'était une remarquable brodeuse.
Ah,
non,
oui, hein, oui, oui. Alors, ici, ce gros chaudron nous rappelle qu'une des premières missions des sœurs à Castres était de s'occuper des prisonniers. Elles préparaient la nourriture et allaient la porter à la prison. Et là, elles étaient chargées de changer les pailles des cellules, puisqu'il n'y avait pas de matelas, ouais, régulièrement, et tout, c'était leur travail. La mairie leur remettait tant de kilos de pommes de terre, de pain et tout, par prisonnier. Et elles, après, elles devaient tout préparer.
Donc, non, elles faisaient cuire la soupe.
Elles faisaient cuire la soupe là-dedans. Et avec la carriole, il fallait aller à la prison en ville. Rien que déjà le poids du chaudron. Dans cette armoire, ce sont les habits d'Émilie.
Donc ça, c'est la...
C'était sa robe.
Sa robe, oui.
La petite cape, la coiffe et tablier qu'on mettait à l'époque.
Aujourd'hui, vous avez simplifié.
Très simplifié. Bon, c'est aussi dans l'air du temps. Hein. On est dans le monde. Hein. En fait, bon, l'habit en lui-même comme il est, c'était l'habit des dames d'ici, de la campagne.
Et là, oui, une couronne d'épines, c'est...
Parce que quand nous faisons les vœux perpétuels, moi je l'ai connu aussi, j'ai la mienne, au jour des vœux perpétuels, on nous donne une couronne d'épines pour nous rappeler notre engagement à la suite du Seigneur.
C'est spécifique
à notre congrégation.
À notre congrégation,
hein.
À vous. Hein.
À là, nous, oui. Là, oui. Quand on devient novice, on a une couronne de fleurs. Quand on devient professe, on nous donne la couronne d'épines. Mm-hmm. Du moins, c'était comme ça. Hein. Il y avait tout un symbole, nous rappeler ce service qui va jusqu'à donner sa vie.
Donc là, c'est une vue du château d'Autrive.
Oui.
Voilà, c'est
là. Alors ici, il y a c'est des photos de l'exhumation qui a eu lieu en 1955. Et alors, le cercueil qui a été retiré, il ne restait le squelette entier, le cerveau, mais vraiment le squelette entier, hein, et l'habit. Mais l'habit n'avait plus un fil de couture. Alors on ne comprend pas parce que normalement, la tombe a été remplie de soude à cause du choléra. On n'aurait dû rien retrouver.
Et là, c'est ce qui a appartenu, non,
Le chapelet, ce n'était pas le sien. Le sien, il est dans l'armoire. Mm-hmm. Mais là, ce sont ses lunettes. Elle avait toujours dans sa poche le canif. C'était une spécialité des sœurs bleues. Sous l'habit, elles avaient un jupon avec des grandes poches. Et dans les grandes poches, il y avait toujours les ciseaux, le couteau, le bout de ficelle.
Et là, ce sont ses cheveux.
Qui ont été coupés au moment de sa profession religieuse. Et ils avaient été remis par Émilie à sa grande amie Coralie de Gaïs. Mmh. Et il y a quelques années, la famille de Blaye de Gaïs a retrouvé ça et nous les ont remis. Oui. Ils ont dit non, ça sera mieux chez
vous. Ça vous revenait de droit ici quand même. Et pour fonder la congrégation, elle n'a pas eu de difficultés particulières pour fonder la congrégation,
La difficulté, c'était elle. Elle ne voulait pas fonder. Émilie voulait rentrer chez les filles de la charité. Et son père lui avait dit, pas question, je ne veux pas que tu quittes la région, je veux te garder auprès de moi. Et là-dessus, il y a un laïc, M. Debar, qui était pour les gens de l'époque un saint homme, a eu comme une révélation la nuit. Et il a vu que Émilie, que Mademoiselle de Villeneuve, fondait une maison pour accueillir les enfants abandonnés. Alors, le lendemain, il est allé au château et il a dit, voilà ce que j'ai vu. Et Émilie s'est montrée très réticente, mais s'en est ouvert à l'évêque. Et Monseigneur lui a dit, mais dans le fond, vous êtes peut-être appelé à ça.
Un évangile grand ouvert, toute sa vie en est la preuve. Pour nous, elle est une lumière, sœur Émilie de Villeneuve.
Et depuis à Castres et sur 4 des 5 continents, les filles d'Émilie, attentives et fidèles à son charisme, qui leur demandent d'aller là où la voix des pauvres se fait entendre, répondent toujours et encore aux appels de notre temps. La canonisation le 17 mai 2015 à Rome, un événement fédérateur.
Oui, vraiment. Et ça a été une révélation pour beaucoup de personnes, surtout ici à Castres, où le couvent bleu, c'était l'école, c'était un peu une forteresse. Et on n'avait pas idée de ce qu'il y avait à côté.
Et plus que jamais à Castres, à Haute-Rive, en Afrique, en Amérique latine, à Haïti, aux Philippines, il y a du bleu sur le monde.